Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont des bâtiments, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Vous êtes peut-être concerné et vous avez des préoccupations et pourquoi pas de questions autour de la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et SIDA. N'hésitez pas à nous faire parvenir toutes ces préoccupations au 081 890 63 94 pour les appels ou encore au 081 070 20 50 pour les SMS. Et ceux qui nous suivent sur les lettres, n'hésitez pas non plus, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Nous avons Manuel Dafuta, conseiller régional la mobilisation sociale et JIPA, donc on avait parlé de la participation à tri des personnes vivant avec le VIH et SIDA. Avec lui, nous allons aborder la question sur la discrimination. Et comme vous le savez, la discrimination et la stigmatisation constituent un frein à la prévention et à l'accès universel au traitement antirétroviral. Bon nombre de gens n'arrivent pas à faire leur test sérologique. Ils ont peur, en cas de résultat positif, d'être contraints de se présenter un jour dans une structure de prise en charge des PVIH. Cette crainte s'explique par le fait qu'ils redoutent d'être bannis ou rejetés par leur entourage à cause de leur état de maladie. Nous avons Manuel Dakita dans ce studio. Manuel, est-ce que la lutte contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH est-elle possible?
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, je pense qu'elle est possible si on se met tous ensemble. Nous, au sein du groupe UN+, le groupe des employés séropositifs des Nations Unies, faisons déjà depuis 5 ans des plaidoyers très forts auprès du senior management, de la haute direction, pour mettre en place des politiques qui luttent contre la stigmatisation et la discrimination dans la place de travail des Nations Unies. Ensemble avec le groupe UN Cares, qui est le programme des Nations Unies d'information et de prévention et d'information et de formation aussi du staff au niveau du VIH, avons mis en place cette année, qui vient d'être lancée le 8 juin, une campagne globale pour tous les employés et tous les bureaux des Nations Unies contre la stigmatisation et la discrimination. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, la stigmatisation au sein des Nations Unies tue beaucoup plus que le VIH. Aujourd'hui, si on vit avec le VIH, on peut vivre normalement, si on prend le médicament, si on a une hygiène de vie normale, on peut vivre longtemps.
Donc Manuel, le groupe du staff des Nations Unies vivant avec le VIH, vous êtes le cofondateur.
Oui, je suis le cofondateur.
Donc, il existe bel et bien un groupe du staff des Nations Unies, donc de staff vivant avec le VIH.
Exactement, ça existe. Et c'est exactement pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination dans la place de travail que nous avons créé ce groupe en 2005 à l'ONU Sidan. Et aujourd'hui, on a des groupes au niveau national dans 7 ou 8 pays déjà et on a 200 à 250 membres déjà.
Donc, ne sont membres que des personnes vivant avec le VIH.
Que des employés des Nations Unies.
Vous êtes membre.
Je suis membre cofondateur parce que je suis une personne vivant avec le VIH qui était victime de discrimination.
Voilà, alors Manuel, cette lutte dont vous parlez, elle doit impérativement passer par quoi?
Par un changement de comportement et par l'information, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème de travailler avec un collègue qui est séropositif, il n'y a aucun problème d'être dans la même salle, de taper dans le même ordinateur, s'asseoir dans la même chaise, utiliser le même téléphone, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'est prouvé qu'il n'y a aucun problème. Alors, c'est une question encore morale, c'est une question de manque d'information, c'est une question de peur. Alors, c'est une question de comportement qu'on doit changer, on doit lutter contre ça.
Et quelle est l'approche que vous utilisez? Parce qu'on sait dans bien des cas, le problème aujourd'hui du VIH et SIDA est entouré de plusieurs préjugés, de plusieurs stéréotypes, et c'est ce qui amène d'ailleurs même à la stigmatisation et à la discrimination. Mais aujourd'hui, quelle est l'approche que vous utilisez au sein du groupe pour amener, en tout cas au maximum, que les gens puissent comprendre que la maladie ne représente plus qu'un danger?
Le premier pas a été de créer UN Cares pour informer convenablement le staff des Nations Unies sur le VIH. Quels sont les vrais moyens de transmission du VIH? Quels sont les vrais moyens de prévention? Comment réagir et essayer de vivre positivement, quels sont les services qui sont à la portée des employés des Nations Unies au cas où il y a un problème. Il faut savoir que Nations Unies, on peut aider les gens qui vivent avec le VIH, le staff qui vit avec le VIH. Et pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination, on a créé davantage des outils. Et un des outils, c'est ce groupe des employés séropositifs. Oui, notre lutte, c'est vraiment contre la stigmatisation et la discrimination, ainsi que la confidentialité, ainsi que la mobilité, et aussi pour l'assurance maladie. On lutte aussi pour que les médicaments soient couverts à 100%, et on a fait une étude qui prouve que c'est possible. Alors, stigmatisation, il y a des politiques. Un des instruments, c'est à faire des amendements à la politique des Nations Unies pour le personnel en matière de VIH. Elle a été élaborée en 1991 et devient un peu caduque. C'est pour ça qu'on est en train de l'élaborer et remettre à jour. Il y a un groupe de travail dont UN Plus fait partie avec la députée secrétaire générale à New York. Et on essaye de mettre des campagnes. On essaye de faire des campagnes d'information. On essaye de faire des campagnes qui vont toucher la personne d'une façon où elle peut changer de comportement. On essaie de faire des témoignages. Je fais beaucoup de témoignages. Je vais dans beaucoup de pays faire des témoignages au staff en disant qu'il n'y a pas de problème. Je vis avec le VIH, je prends mon médicament, je travaille, je m'engage et j'ai une vie complètement normale.
Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai, ça s'accepter, c'est pas facile. Le problème de la stigmatisation et la discrimination, c'est d'abord créé par la personne elle-même par rapport à tous ces préjugés dont j'ai parlé. Mais comment arriver à montrer à la personne, à changer sa perception des choses, c'est-à-dire voir les choses autrement? Parce que c'est difficile, c'est un problème psychologique.
Ouais.
Alors le travail doit être fait, il faut une thérapie psychologique ou psychiatrique, si vous voulez.
Exactement, il existe des services pour ça. Et ça existe des services, des conseillers qui, en psychologie, et des conseillers du personnel qui peuvent aider. Et moi-même, j'étais beaucoup aidé par ces conseillers au début. Quand, vous savez, quand on reçoit la nouvelle qu'on est séropositif, il y a un choc psychologique. On a tendance à perdre un peu l'estime de soi-même, on a tendance à se réfugier, à se cacher, à ne pas dire, et là c'est le début du problème, parce que si on se cache, on ne dit pas, on ne cherche pas les services ni les traitements, et on peut se mettre en danger davantage. Alors l'auto-stigmatisation existe aussi. La personne qui est séropositive, parfois, a tendance à auto-stigmatiser, à se mettre dans une place de demandeur, une place plus faible, au lieu d'être un acteur. Parce que elle se sent,
c'est psychologique. À son niveau, il se dit, la vie, il s'arrête, tout s'arrête,
exactement. Il y a encore cette notion. Exactement. Il y a encore cette notion que VIH égale la mort, mais ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai, et c'est prouvé qu'aujourd'hui, même avec traitement, on peut faire la prévention. C'est prouvé qu'aujourd'hui, les gens qui sont en traitement peuvent vivre longtemps, s'ils ont une hygiène de vie. Et puis, mais un autre instrument qu'on est en train de lutter pour mettre en place, c'est la zéro tolérance. Le secrétaire général a accepté de faire un message très clair à tout le staff des Nations Unies dans le monde entier, en disant que dans la place de travail des Nations Unies, à zéro tolérance contre la stigmatisation et discrimination. Et c'est pour ça que nous travaillons en collaboration avec UNCARE, avec les associations du personnel, parce qu'ils ont les mécanismes au cas où quelqu'un est discriminé et peuvent se plaindre, et travaillons aussi avec les ressources humaines, et nous travaillons aussi avec les services médicaux.
Manuel, déjà, le travail de fond qui est fait au niveau du groupe, mais le problème, c'est l'environnement, l'entourage. Alors, quel est le travail que fait le groupe, le staff, pour convaincre ceux qui ne sont pas là, comme vous?
C'est ça, exactement. C'est ce que je suis venu faire au Congo. Essayer de voir les services médicaux, essayer de voir les points focaux des Nations Unies pour le UN Cares, pour le programme UN Cares. J'ai vu les services médicaux, j'ai vu les dispensaires, et avec eux, parler pour essayer d'ensemble créer un environnement beaucoup plus favorable où les personnes au Congo puissent se sentir à l'aise, puissent faire leur coming out avec leur statut et ne pas être discriminés ni stigmatisés.
Peut-être que vous connaissez déjà votre cas sérologique, n'hésitez pas, il y a des structures qui vous aident surtout à sortir de cette discrimination et stigmatisation, entre autres le groupe du staff des Nations Unies vivant avec le VIH et le SIDA, dont Manuel Dakita, qui est notre invité, en est le cofondateur, et ça s'appelle UN Plus. Et d'ailleurs, au cours de cette émission, vous pouvez nous rappeler et nous poser des questions, nous faire parvenir vos préoccupations au 081-890-63-94 pour les appels et au 081-070-2050 pour les SMS.
Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, je vous remercie de votre fidélité à Radio Okapi et vous qui nous rejoignez, bienvenue à Okapi Service. Nous poursuivons avec notre invité, Manuel Dakita, qui est le conseiller régional en mobilisation sociale et DIPA. Donc, attendez par là, participation accrue des personnes vivant avec le VIH et SIDA. Et il est en même temps cofondateur de UN+, c'est-à-dire le groupe des staffs des Nations Unies vivant avec le VIH et SIDA. Alors, Manuel, aujourd'hui, on parle dans le monde entier de stratégie mondiale de lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Dans votre structure, dans le groupe de staff des Nations Unies, est-ce que vos stratégies utilisées, l'approche utilisée, répond-elle, disons l'approche, est-ce qu'elle répond réellement aux stratégies, aux recommandations des stratégies mondiales?
Oui, on essaye, vous savez, stigmatisation et discrimination, ça dépend d'un comportement, changement de comportement. Et la seule façon de changer le comportement des collègues vis-à-vis d'un collègue qui est séropositif, c'est l'informer davantage. C'est leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils se sentent à l'aise de travailler avec un collègue séropositif. La plupart des fois, c'est par la peur. La peur de ne pas savoir comment traiter avec un collègue qui est séropositif, la peur de d'avoir un accident de travail et puis avoir un échange de sang, la peur de toucher un téléphone, ou une chaise, ou un clavier, ou tout ça. Alors ça, la stratégie, c'est par l'information. Et c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec UNCARES pour exactement... Eux, ils font le programme d'information et de formation du personnel, et nous, autant que employés séropositifs des Nations Unies, on vient parler ouvertement sur notre vécu de stigme et discrimination, et aussi on demande aux gens quel est à leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour lutter contre la stigmatisation. Déjà par le langage. Parce que quand on parle de quelqu'un qui vit avec le VIH, on ne dit pas quelqu'un qui est sidéen. Parce que ça, c'est déjà la même chose qu'avec quelqu'un qui est en enfer.
Quelqu'un qui est malade.
Exactement. Il faut éviter ce langage, c'est un langage discriminatoire déjà. C'est quelqu'un qui vit avec le VIH, quelqu'un qui vit avec un diabète. Voilà, ou quelqu'un qui a un cancer. On n'a pas de nom spécifique. Alors, déjà, pour commencer dans un langage neutre, ça, c'est déjà un grand pas. Quelqu'un qui, par exemple, dans son bureau, si je passe dans un bureau et je vois un ruban rouge, je sais que cette personne est solidaire avec le sida. Alors, si j'ai envie de parler avec elle sur mes problèmes, je peux parler parce que je sais qu'elle est solidaire. Déjà, c'est des petits pas. Et essayez de convaincre les collègues à aller aux formations du UNCARES. Ce sont des très bonnes formations. Faire ce cours de formation sur le VIH explique beaucoup de choses, parce que des fois, les mythes et les préjugés, c'est un manque d'information correcte, c'est par la peur. Mais on peut alléger cette peur et on peut augmenter davantage l'information en passant par ces cours. Alors, il faut savoir que le staff des Nations Unies, aujourd'hui, s'ils ont besoin d'aide, ils ont l'aide. Aux services médicaux, ils ont accès aux traitements, aux soins, aux traitements, à l'appui, à tout. Aujourd'hui, il y a tout parce qu'elle
est. Quand on nous a dit aujourd'hui, les problèmes d'accès au traitement antirétroviral, ça pose problème avec acuité. En tout cas, c'est pas tout le monde qui a accès. Hein. Et on a relevé, parfois même au niveau de la RDC, il y a ce déficit d'accès aux soins appropriés. Alors, à votre niveau, sûrement vous allez aider, raison pour laquelle nous rappelons d'ailleurs votre numéro, parce que les préoccupations de certaines personnes qui ne pourraient pas passer directement à l'antenne, je vais vous contacter personnellement, donc vous êtes joignable au 039, donc 0999 32 97 523. Alors, Manuel, vous parlez donc de l'information, d'abord que les gens soient informés.
Oui, exactement. Il faut être informé. Et cette information, on peut nous la donner à UN+. On peut aussi contacter le website de UN+, www.unplus.org. Il y a toute l'information. on peut nous appeler, on peut nous contacter par email aussi, et nous, on gère la situation du staff dans le monde entier, on gère, on le fait des références, où aller, on cherche le centre médical, on essaie de trouver le traitement, on essaie de trouver de l'appui, et on met parfois même...
C'est un service costaud.
C'est un service costaud, mais on est là pour ça, c'est un groupe. De plaidoyer, c'est un groupe de soutien à la base, le UN+. Alors, on est là pour soutenir tous nos collègues dans le monde entier qui vivent avec le virus.
Voilà, alors, Emmanuel, en tant que conseiller régional en mobilisation sociale, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur le niveau caractère aujourd'hui de cette lutte ? Parce que c'est vrai, il y a eu un départ, peut-être aussi, il y a quelques avancées déjà réalisées par rapport à la perception, par rapport au changement. Est-ce que nous sommes encore au niveau zéro ou on a peut-être fait déjà un pas ?
Ah, on vient de faire des grands, grands pas. Et la semaine passée à New York, la réunion de haut niveau avec une présence unique de 35 chefs d'État qui ont signé la nouvelle déclaration d'engagement des pays pour atteindre l'accès universel aux soins, au traitement, à la prévention et l'appui pour, en 2015 a été une grande avancée. Aujourd'hui, on a déjà 6 millions dans le monde entier de personnes qui sont sous traitement. On a encore 9 millions qui manquent de traitement. Mais on a réussi à mettre 6 millions déjà en traitement. Il faut aussi savoir que ce financement vient aussi de l'extérieur. Il faut que les pays aillent une appropriation nationale davantage parce qu'on ne peut pas financer le traitement à vie à tout le monde. C'est impossible au niveau financier. Alors, on essaye de travailler avec les pays aussi pour qu'ils commencent à s'approprier de leur propre réponse et de leur propre financement de traitement pour leurs nationaux. On essaie, il y a aussi des études qui ont prouvé qu'aujourd'hui, le traitement est égal à la prévention. Un couple discordant, un séropositif, un séronégatif, si un prend le traitement, et il a énormément de chances de ne pas infecter son partenaire, parce qu'il prend le médicament. Et il y a des études qui ont prouvé qu'il y a eu 96% de réussite. Il y a des gels microbicides qui donnent beaucoup plus de liberté et de pouvoir aux femmes de se protéger davantage. Vous savez que dans cette région du monde, la femme n'a pas le droit encore de négocier du sexe avec son partenaire. Alors, elle aura le pouvoir de se protéger davantage avec ce gel microbicide. Il y a aussi le vaccin qu'on commence à avoir plus de résultats, mais il faut davantage de meilleurs résultats pour être commercialisé. Il y a beaucoup d'avantages. Au niveau des droits humains, vous savez qu'aujourd'hui, les épidémies commencent à devenir concentrées dans certains groupes vulnérables au niveau mondial. Il faut que les lois puissent être amendées dans les pays pour qu'on puisse atteindre ces groupes vulnérables qui sont clandestins, qui n'existent pas aux yeux de la loi, mais que dans la réalité, ils sont là. Et ça s'appelle les hommes qui ont du sexe avec les hommes, les commerciaux du sexe, les usagers de drogue, tous ces groupes-là qui existent. Et c'est là que dans la plupart des pays, il y a encore le focus. Malgré que dans la épidémie généralisée dans un pays, c'est le couple hétérosexuel où c'est le problème.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, chers auditeurs, et nous rappelons que vous êtes réellement sur la fréquence de la paix, et vous suivez, donc nous poursuivons avec Au Capi Service, et nous vous rappelons que vous pouvez également nous faire parvenir vos réactions et pourquoi pas vos préoccupations au 081 890 63 94 pour les appels et au 081 070 20 50 pour les SMS.
Quelle est l'importance de la nouvelle opération de révision du fichier électoral à Kinshasa ?
Elle est importante car elle permettra aux électeurs de Kinshasa qui ont obtenu leur carte d'électeur en 2009 de bénéficier d'une nouvelle carte avec les informations sur leur province, leur territoire et leur groupement d'origine. Cette nouvelle carte ne comportera plus le code de leur site, mais le nom du lieu de vote. Attention, à la fin de cette opération, toutes les cartes émises en 2005 et 2009 ne seront plus valables. J'ai ma carte d'électeur, je voterai. Et toi ?
Voilà, nous avons notre invité Emmanuel Dakita, conseiller régional en mobilisation sociale et JPA, participation accrue des PVVIH. Alors, Emmanuel, l'impact dans le monde aujourd'hui, l'impact du SIDA, l'impact du VIH dans le monde a été, comme tu dirais, stabilisé par rapport aux dernières statistiques de l'OMS. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces avancées-là, c'est aussi à classer dans les comptes des changements et aussi de la nouvelle approche que les gens sont mis sur pied pour éviter la discrimination et la stigmatisation, parce que de permettre, disons, à un nombre important de gens de pouvoir se faire dépister et de connaître les états sérologiques.
Exactement. On a eu beaucoup d'avancées. Et aujourd'hui, malgré qu'on a 33 millions de personnes vivant avec le VIH, aussi dans le monde, et sorti dans la semaine passée dans un nouveau rapport de l'ONU et de l'OMS, on a réussi à stabiliser dans beaucoup de pays l'épidémie. D'ailleurs, en 10 ans, on a eu même une baisse de 25% en 29 pays d'Afrique. Et ça, c'est dû aux jeunes. La jeunesse a compris qu'il fallait qu'ils fassent une révolution de la prévention. Ils ont compris. Et aujourd'hui, les jeunes ont moins de partenaires sexuels dans beaucoup de pays. Ils ont des relations sexuelles beaucoup plus tard qu'avant. Et ils sont beaucoup plus fidèles. Et ça, ça a prouvé et ça a fait descendre la prévalence dans beaucoup de pays de 25%. Et dans ces 29 pays, dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a 19 pays où on a réussi à baisser la prévalence et le nombre de personnes infectées. On a réussi à mettre beaucoup plus de gens en traitement. Mais sachant qu'aujourd'hui, pour chaque deux personnes, pour chaque une personne qu'on met sous traitement, il y a deux qui restent infectées. Alors, on doit encore casser cette barrière, parce que pour deux personnes infectées, on met seulement une en traitement. Et ça, c'est pas encore l'idéal. Il faut que le gouvernement investisse davantage dans l'accès au traitement. On sait aussi aujourd'hui que la prise en charge combinée avec HIV et tuberculose, on a pu sauver beaucoup de gens, parce qu'en Afrique, vous savez que la première cause de mort chez les personnes vivant avec le VIH, c'est la tuberculose. Alors aujourd'hui, dans la prise en charge, on a cette prise en charge combinée, et on a essayé, et on essaye aussi d'améliorer le système de santé. Aujourd'hui, la prise en charge, accompagnement et soutien existent, et on est en train de l'améliorer. Le problème consiste toujours au comportement. On vient toujours au comportement humain. L'homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, chacun a son caractère, sa personnalité, et ça, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de programme, à part la sensibilisation constante et l'information. Ce qu'on doit faire aujourd'hui pour faire davantage de résultats, c'est redoubler d'efforts au niveau de la prévention, sachant qu'aujourd'hui, traitement égale prévention, il faut mettre davantage de gens sous traitement. Et ce qu'il faut faire aussi aujourd'hui, c'est faire cette révolution de la prévention, essayer d'utiliser les moyens modernes à travers Twitter, à travers Facebook, à travers les SMS, essayer de trouver des moyens innovateurs de prévention pour atteindre la jeunesse, pour atteindre les gens beaucoup plus souvent.
Voilà, alors une dernière question qui me passe à l'esprit. Aujourd'hui, vous êtes un groupe du staff des Nations Unies vivant avec le VIH-SIDA. Et la femme est sortie de sa clandestinité pour vous rejoindre aussi au niveau du staff. Parce que c'est ça le problème aussi. Les femmes sont parfois récoquevillées et se replient à elles-mêmes. Est-ce qu'elles vous ont rejoint aussi?
D'ailleurs, on a beaucoup plus de femmes membres que d'hommes. La femme, elle peut être un peu plus recroquevillée, mais quand elle a besoin d'aide, elle cherche beaucoup plus facilement qu'un homme. Et nous, on a 210 des membres et peut-être 60% ou 65% sont des femmes. Et on a même des femmes qui sont présidentes des groupes nationaux. C'est elles qui ont eu le leadership de créer le groupe au niveau des pays, des employés qui travaillent toujours pour les Nations Unies et qui ont décidé de créer le groupe dans leur pays, au Kenya, par exemple, au Malawi. C'est des femmes qui sont très actives au niveau du staff. Mais la femme, elle est peut-être moins voyante, mais elle est beaucoup plus active. Elle fait un travail de terrain, d'information, elle fait un travail de visite à domicile, elle fait le travail de conseillère, elle fait tout ce travail-là. L'homme, non, l'homme reste beaucoup plus engagé dans le grand plaidoyer, dans le grand activisme. C'est deux rôles différents, mais on a aussi quand même beaucoup de femmes.
Nous avons un auditeur en ligne, Fanny de Kananga. Bonjour Fanny.
Ah, bonjour.
Et merci de nous rejoindre. Et quelle est votre préoccupation?
Bon, moi, ma préoccupation, bon, en fait, j'avais deux préoccupations. La première, je l'avais déjà posée, mais on m'avait déjà donné la réponse. Mais deuxième, maintenant, mais précisément dans notre territoire, il se fait que nous avons beaucoup de gens des VIH, mais ils ne sont pas bien pris en charge. Par manque des ARV, bon, la plupart des cas, nous les avons mis sous côté, mais nous avons juste remarqué que ça ne donne pas de bons résultats, mais on ne sait pas quelle stratégie qu'on peut prendre.
Merci beaucoup, Fanny. Manuel, aujourd'hui, le problème de médicaments, donc les antirétroviraux, pose également problème parce que les fabricants, il y a plusieurs, fabricants qui mettent des antirétroviraux, disons, sur les marchés. Et on ne sait pas quels sont les antirétroviraux de bonne qualité, et ça, je ne sais pas, peut-être que ça rejoint aussi sa préoccupation, de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Il y a des antirétroviraux qui n'ont pas d'impact, des bons résultats, qui ne donnent pas de bons résultats selon lui.
Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut être suivi par un médecin, par un centre médical qui est fiable et qui est reconnu par les Nations Unies, parce que il y a beaucoup de faux médicaments et de faux ARV, surtout faits en Chine. Il faut faire très attention avec les ARV faits en Chine qui ne sont pas, comment dire, classifiés par l'OMS, et ça, il ne faut pas prendre, parce qu'en France, c'est de la farine du sucre, tout simplement. Alors, les ARV, le problème de l'histoire, c'est un problème du pays, c'est un problème de organisationnel, c'est un problème de savoir gérer un stock. Je sais qu'il y a beaucoup de pays où il y a des stocks qui s'arrêtent. Ça crée beaucoup de problèmes parce que quand on est sur un traitement et s'il s'arrête, on va créer des résistances, on peut devenir résistant à ces médicaments et peut-être qu'il n'y en a pas d'autres disponibles, ou alors la deuxième ligne et troisième ligne de médicaments ne sont pas disponibles, ils sont encore beaucoup plus chers pour que le pays puisse acheter. La stratégie aux Nations Unies, je suis content d'écouter toutes ces choses-là parce que parfois on est à Genève dans les sièges et on n'a pas la notion de ce qui se passe sur le terrain. Et je viens d'apprendre énormément de dysfonctionnements que je vais reporter plus haut. Et je remercie cet auditeur pour me apporter cette information parce que je vais reporter ça. Sachant que le staff des Nations Unies place un travail modèle et que les 10 mandements du UNKS dit que nous devons avoir tous accès au traitement, au service, aux soins et à la prévention, et en fait, c'est pas vrai.
Alors, vous allez passer un séjour, vous avez encore quelques temps.
Je suis ici jusqu'à jeudi soir.
Jusqu'à jeudi soir, donc, ceux qui aimeraient bien avoir quelques informations, on ne va pas faire parvenir leurs préoccupations. Nous rappelons encore le numéro, il s'agit de Manuel Dantica, conseiller régional en mobilisation sociale et JIPAM. Il est au 09 99 329 75 23. Donc je récapitule, 09 99 32 97 523. Manuel Dakita, c'est par ici que nous mettons un terme à cet entretien.
Merci infiniment.
Merci beaucoup pour nous de vous recevoir dans ce studio et nous allons peut-être vous retrouver très prochainement, peut-être pour voir comment il y a également des avancées sur cette question.
Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Merci. Okapi.